RFI, 10h à Paris, 8h en temps universel.
Bonjour à tous, ce sont pour certains les élections les plus importantes de la 5e République. La France à nouveau aux urnes ce dimanche, premier tour des législatives. La participation semble déjà forte en Nouvelle-Calédonie où le vote a eu lieu, décalage horaire oblige. Dans ce journal également, le deuxième tour de la présidentielle à venir en Iran. Quant en Mauritanie, on attend toujours les résultats du premier tour. Et puis l'Italie déjà éliminée de l'Euro de football. Les tenants du titre ont été surpris par la Suisse. Faut-il faire des alliances, se désister, donner des consignes de vote en cas d'élimination? Ces questions, les partis politiques français se les poseront demain. Certains y ont déjà répondu, d'autres pas encore. Il leur reste peu de temps, le temps en fait d'une journée électorale. Premier tour des législatives anticipées ce dimanche. Les bureaux de vote ont ouvert il y a 2 heures. Maintenant, on attend les premiers chiffres de la participation à la mi-journée. Elle s'annonce forte. D'ailleurs, le nombre de procurations a explosé. Plus de 2,5 millions selon le ministère de l'Intérieur. Alors, beaucoup d'électeurs désirent dans les territoires d'outre-mer qui ont voté avec un petit peu d'avance. En Nouvelle-Calédonie notamment, les bureaux de vote étaient très fréquentés. Un mois seulement après le début des émeutes qui ont secoué l'archipel français du Pacifique contre une réforme du corps électoral. Alors là-bas, forcément, c'est sous haute surveillance que le vote s'est déroulé. Plutôt dans le calme d'ailleurs. Reportage à Nouméa de Charlotte Manvi.
À voter.
Avant d'entendre le fameux sésame, mieux valait s'armer de patience dans ce quartier populaire de Nouméa. Une heure avant l'ouverture du scrutin, de nombreux électeurs faisaient déjà la queue. Une mobilisation qui remonte le moral de Josette après cette semaine de violence.
Très motivée, très très motivée. Là, c'est pas comme les d'habitude. Oh, j'ai pas envie d'y aller. Oh, je m'en fous complètement. Je crois que c'est un déclic là. Ça fait très plaisir. Hein, ça fait très plaisir. Tout le monde bouge. Tout le monde a envie de voir changer. Le pays.
Les jeunes sont particulièrement nombreux à attendre, foulard blanc sur la tête. Emmanuel est venu avec plusieurs amis. Pour lui, voter, c'est continuer de se mobiliser.
Il faut qu'on change, il faut qu'il y ait du changement. La jeunesse, c'est pour ça qu'elle s'est manifestée. La jeunesse qui a été oubliée. Pendant les 30 ans, on a mis de côté la jeunesse. Là, elle s'est exprimée. Je crois que les votes, là, ça va peut-être changer la donne.
Pas de transport en commun depuis des semaines et des bureaux regroupés pour assurer la sécurité du vote. Certains électeurs ont donc dû marcher plusieurs kilomètres pour venir voter, comme l'a constaté Valérie, président d'un bureau.
Les gens sont venus voter en masse. Pourtant, les bureaux de vote sont assez excentrés par rapport au lieu d'habitation des personnes. Mais oui, les gens se sont déplacés en masse. Habituellement, on est situé plus près de leur domicile habituel. Mais voilà, malgré tout, les gens font l'effort de venir voter.
À midi, la participation était deux fois supérieure à celle de 2022, une seule commune sur la côte Est n'a pu organiser le scrutin. La mairie de Wailou a été bloquée par des manifestants et la gendarmerie de la commune assaillie à l'aide d'un camion bélier. Charlotte Manvi, Nouméa, RFI.
Et pour suivre en direct ce premier tour des élections législatives anticipées en France, rendez-vous sur RFI.fr avec notre page constamment mise à jour. Vous y apprendrez par exemple que plusieurs responsables politiques ont été très matinaux en glissant leur bulletin dans l'urne dès l'ouverture des bureaux de vote. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe notamment dans sa ville du Havre ou encore l'écologiste Marine Tondelier d'elle dans le Pas-de-Calais. En Iran, le vote s'est fait mais il y aura un deuxième tour de la présidentielle vendredi prochain. C'était loin d'être couru d'avance puisque depuis 1979 et les débuts de la République islamique, ce n'était arrivé qu'une seule fois qu'aucun candidat n'obtienne de majorité absolue dès le premier tour. Ça s'est donc reproduit avant-hier, 42,5% des suffrages pour le réformateur Massoud Pezeshkian, 38,6% pour l'ultra-conservateur Saïd Jalili, deux candidats aux visions très différentes, Antoine Galen.
Saïd Jalili est un ultra-conservateur qui a la confiance du guide suprême Ali Khamenei. Ancien négociateur du dossier nucléaire entre 2007 et 2013, il plaide pour la poursuite d'une politique anti-occidentale et souhaite se rapprocher de la Chine sur le plan économique. Concernant la défense, il espère compter sur la Russie et le rival saoudien. Face à lui, un candidat quasiment inconnu quand il est entré dans la course, Massoud Pezeshkian, chirurgien de profession et ancien ministre de la Santé entre 2001 et 2005. Il prône un réchauffement des relations entre l'Iran et les pays occidentaux, États-Unis en tête, afin de lever les sanctions qui affectent durement l'économie iranienne. Sans remettre en cause le système, le candidat réformateur a aussi dénoncé les méthodes de répression des manifestations contre le port du voile. Cette élection a toutefois une influence limitée car les pouvoirs du président sont restreints. Il doit appliquer les grandes lignes politiques fixées par le guide suprême Ali Khamenei.
Et la participation a été très faible lors de ce premier tour, alors pour le second, il faudra aller voter en masse pour sauver le pays de la pauvreté, des mensonges, de la discrimination et de l'injustice. Voilà ce qu'a déclaré le réformateur Massoud Pezeshkian. En Mauritanie, on ne sait pas encore s'il y aura ou non un deuxième tour. En tout cas, hier, près de 2 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir entre 7 candidats, dont l'actuel chef de l'État Mohamed Oulcher El Razouani, candidat à sa propre succession. Alors, selon de premières estimations, au moins un électeur sur deux est allé voter, a priori dans le calme, pas d'incident majeur signalé à ce stade. On attend donc les premiers résultats provisoires dans la journée. Notre envoyée spéciale, Léa Lisa Westerhoff, a elle suivi ce premier tour dans le quartier populaire d'Elmina, dans le nord de la capitale Nouakchott. Voici son reportage.
Sous un soleil de plomb dans la cour du lycée Elmina, au nord de Nouakchott, ils sont un peu plus d'une centaine à patienter pour aller voter, comme Amadou qui est là.
Depuis 9h ce matin, il est 12h30. C'est un peu là. Même si on va rester ici 5 heures de temps, on va attendre pour voter. Voilà, c'est très important.
Camara, lui, vient de voter et confirme l'importance de cet acte.
C'est quelqu'un qu'on va élire pour 5 ans par rapport à ce qui va se passer dans le pays. Et donc, il faut aller voter et essayer de choisir même quelqu'un qui pourra vous considérer, qui pourra vraiment améliorer les conditions de votre vie.
À quelques kilomètres de là, dans le quartier de Sepra, des militants restent à l'extérieur du bureau de vote comme d'habitude.
On est là pour surveiller et voir si tout se passe dans l'ordre. Au cas où échant aussi, encore nous allons signaler. L'achat de conscience, par exemple. Et nous sommes là pour surveiller.
Finalement, pas d'incident devant ce bureau de vote, mais la méfiance est forte après des scrutins contestés en 2023 ou en 2019. Cette année, la commission électorale a promis une plus grande transparence avec le site MyCeni. Des premiers résultats pourraient être rendus publics dès aujourd'hui. Léa Lisa Westerhoff, Nouakchott, RFI.
Quel avenir au sein de la communauté internationale pour les talibans? Aucun pays n'a pour l'instant reconnu leur pouvoir depuis leur reprise du pays il y a 3 ans. Mais ils sont quand même bien là, aujourd'hui et demain, à Doha, pour une nouvelle conférence consacrée à l'Afghanistan. Les Afghans et la société civile, par contre, ne participeront pas aux discussions officielles, comme réclamé par les talibans, qui n'ont cessé de réduire la place des femmes dans la société. Beryl approche des Caraïbes, premier ouragan de la saison. Le sud-est de la région est en état d'alerte, notamment à la Barbade, où l'on attend de très fortes rafales de vent. On part au Canada qui a annoncé cette semaine la fin à venir d'un moratoire vieux de 32 ans qui interdisait la pêche à la morue dans les eaux de l'Atlantique au large de sa grande île de Terre-Neuve. Elle avait longtemps été réputée pour ses stocks, on les pensait inépuisables, sauf que ce n'était pas le cas, d'où cette interdiction qui avait mis 30 000 personnes au chômage et provoqué un exode de population vers d'autres provinces. La pêche à la morue va donc pouvoir reprendre là-bas, avec elle l'espoir de redémarrer un secteur économique autrefois florissant. Correspondance de Pascal Guéricola.
L'ouverture d'une petite pêche commerciale s'explique par un nouveau modèle d'évaluation des stocks de morue. À chiffres égaux, l'état de santé de l'espèce dans cette région canadienne semble un peu moins critique que les années précédentes aux yeux du ministère des Pêches. Le chercheur Hugues Benoît reste prudent cependant.
C'est relativement bas. On n'anticipe pas prochainement un retour à la pêche intensive qu'il y avait dans les années 80 où on pouvait se débarquer annuellement 200, 250 000 tonnes annuellement. Là, on parle d'un quota de 18 000 tonnes.
Les volumes de poissons à pêcher qui n'ont rien de faramineux réjouissent quand même l'industrie qui aura davantage de morue à transformer. Certains pêcheurs, comme Lee Melindy, espéraient davantage cependant.
It is extreme bullshit.
C'est vraiment des conneries. Cela fait des années que l'on se bat pour avoir accès à des prises et maintenant qu'on a enfin ce que l'on demande, c'est un volume bien loin de nos attentes. En plus, 6% des prises sont destinées aux chalutiers étrangers. Pendant qu'on essaie de reconstituer notre industrie, le gouvernement la démantèle.
L'ouverture de la pêche à la morue devrait avoir lieu à la mi-juillet et durer quelques jours. Pascal Guéricola, Québec. RFI.
À deux favoris sur les terrains aujourd'hui à l'Euro de football, mais pas l'un contre l'autre. L'Angleterre d'abord, qui joue son 8e de finale face à la Slovaquie. Coup d'envoi à 16h, temps universel. Et puis à 19h, ce sera l'Espagne qui tentera de se qualifier face à la Géorgie. C'est déjà fini par contre pour les tenants du titre italien, surpris 2-0 par la Suisse qui se qualifie donc pour les quarts de finale. Qualification aussi de l'Allemagne organisatrice qui a battu elle le Danemark sur ce même score de 2-0. Et puis 199 km jusqu'à Bologne. C'est l'étape du jour, la deuxième au Tour de France, même si pour l'heure c'est donc sur les routes italiennes que fonce le peloton. Et hier, c'est le Français Romain Bardet qui a été le plus rapide et qui endosse donc le maillot jaune pour la première fois de sa carrière. Merci d'être avec nous sur RFI. Je vous rappelle ce live sur RFI.fr pour suivre